Chers camarades et amis, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je voudrais dire quelques mots sur les appels à manifester contre la hausse des carburants et à bloquer les axes routiers dans tout le pays le week-end prochain, le 17 novembre. Des pétitions en ligne ont recueilli des centaines de milliers de signatures en quelques jours. La rapidité avec laquelle ces initiatives ont rencontré un écho montre la colère suscitée par la décision du gouvernement d'augmenter les taxes qui représentent 60% du prix de l'essence et du gazole. En un an, les prix à la pompe ont grimpé de 23% pour le diesel et de 14% pour l'essence. Quels sont les travailleurs qui ont vu leur salaire augmenter dans de telles proportions ? Au contraire, depuis des années, dans la grande majorité des entreprises, pour s'assurer des profits en augmentation dans cette période de crise, le patronat n'a cessé de tirer tous les salaires vers le bas. Alors, face à ces attaques et face au mépris gouvernemental, les travailleurs ont vraiment toutes les raisons de protester. L'augmentation des produits pétroliers permet à des sociétés comme Total d'engranger des bénéfices records. Les constructeurs automobiles ont développé le diesel sans se préoccuper des conséquences sur la santé publique. Et ce sont les travailleurs que le gouvernement fait payer au nom de la lutte contre la pollution. Alors les travailleurs ne pourront défendre leur pouvoir d'achat et leurs conditions d'existence qu'en se mobilisant. Mais s'ils se contentent de mots d'ordre aussi vagues que « à bas les taxes », ils se retrouveront forcément à être les dindons de la farce. Pour faire prévaloir leur intérêt, il est indispensable que les travailleurs se mobilisent en mettant en avant leurs propres revendications qui vont au-delà du problème de l'essence. Face à l'augmentation des prix, ceux du carburant comme tous les autres, il faut exiger l'augmentation des salaires, des pensions de retraite et des allocations et leur revalorisation automatique quand les prix augmentent. Autrement dit, leur indexation sur les prix. En se mobilisant sur leur terrain de classe, les travailleurs qui produisent toutes les richesses ont les moyens d'imposer leurs exigences. Grâce à leur force collective et à l'arme de la grève, ils pourront alors bloquer l'économie plus sûrement que nous pourrons le faire des barrages routiers. Par ailleurs, je voudrais aussi revenir sur la leçon que Macron a faite à un jeune avec la phrase désormais célèbre, je le cite, « Je traverse la rue et je vous en trouve du travail. » Parce que, au-delà de l'écœurement et de la révolte qu'elle nous a inspirée, cette petite phrase en dit long sur notre société. Elle en dit long sur notre société de classe. Car du point de vue des patrons et de Macron, ce représentant de la bourgeoisie, les choses sont simples. Quand tu appartiens à la classe ouvrière, eh bien, tu fais ce que l'on te dit de faire. Si tu es chômeur, il faut tout accepter. Ce que tu as envie de faire de ta vie, les études que tu as faites, le métier pour lequel tu as été formé, tes problèmes personnels, on s'en moque. S'il n'y a du boulot que dans l'hôtellerie-restauration ou dans le bâtiment, eh bien, tu le prends. Et si tu n'es pas prêt à cela, eh bien, tu n'as ce que tu mérites. Oh, c'est rarement dit aussi crûment, mais c'est bien le sort que notre société capitaliste réserve à ceux qui appartiennent au monde du travail. Et ce n'est pas une question individuelle. Des millions de salariés sont ballottés de petits boulots en petits boulots, de temps partiel en temps partiel. Même quand on a un emploi stable, il faut accepter de bosser sur n'importe quel type d'horaire, d'en faire toujours plus, de suivre les cadences et les rythmes de travail imposés. Tout ça pour toucher un salaire qui ne couvre même pas les dépenses du mois. Il y a certes des travailleurs plus qualifiés dont les compétences sont plus recherchées par les entreprises. Leurs conditions de travail et leurs salaires peuvent être meilleurs, tant que le patronat trouve un intérêt à les exploiter. Car quand les capitalistes retirent leurs capitaux pour changer de crèmerie et que leur entreprise ferme, eh bien ils sont licenciés comme les autres. Et comme ceux qui sont tout en bas de l'échelle, ils perdent tout. Quand on appartient au monde du travail, on n'échappe pas à la condition ouvrière. Ce qui nous unit dans un sort commun, c'est d'être dépendant de la volonté et des besoins d'un patron. Individuellement, on est piégé par cet ordre social. Chaque travailleur ne peut que se soumettre à la domination patronale. Mais collectivement, nous pouvons le combattre, à condition d'en être conscient. Alors oui, nous avons toutes les raisons de rejeter Macron, son mépris, sa politique anti-ouvrière. Mais il faut aussi et surtout rejeter la classe sociale qu'il représente et le système qu'il défend. Alors, à bas l'exploitation, à bas le système capitaliste. Le capitalisme est en bout de course. Il est enfoncé dans une crise dont il ne peut pas sortir. Les marchés sont saturés, la surproduction est généralisée et elle condamne l'économie mondiale au marasme. Pour accroître ses profits, la bourgeoisie n'a que deux solutions. Piquer des parts de marché à ses concurrents, c'est-à-dire mener la guerre commerciale, qu'elle prenne la forme du libre-échange ou du protectionnisme, et accroître l'exploitation des travailleurs, c'est-à-dire imposer aux salariés de travailler plus de façon à comprimer les salaires et les emplois. À cela s'ajoute le poids extraordinaire pris par la finance. En 2017, l'envolée des bourses a fait gagner 1 000 milliards de dollars aux 500 plus grandes fortunes mondiales. Le propriétaire de LVMH, Bernard Arnault, a vu, lui, son patrimoine s'accroître de 20 milliards, c'est-à-dire une augmentation de 1 300 euros toutes les deux secondes. La finance ajoute non seulement son parasitisme, mais elle menace en permanence de faire plonger l'économie dans un nouveau krach boursier. La finance et la spéculation qui va avec amplifient l'instabilité générale. À la moindre annonce économique, à la moindre secousse politique, à la moindre incertitude, ce sont des masses fantastiques de capitaux qui se jettent sur tel ou tel secteur, affluent ou quittent tel ou tel pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Turquie et en Argentine, où ce sont les travailleurs de ces pays qui en paye le prix fort. Mais demain, à qui le tour? Tous les dirigeants économiques sont d'accord sur une seule chose. Nous allons tout droit vers un nouveau krach. La seule interrogation qu'ils ont est de savoir quand est-ce qu'il se déclenchera. Autrement dit, même eux, même ceux qui en profitent, ne peuvent contrôler leur système économique. Dernièrement, vous l'avez peut-être vu dans la presse est revenue sur l'histoire du krach de 2008, la crise des subprimes, puisque cela fait exactement 10 ans. Eh bien, des reportages montraient la consternation et le désarroi des employés, des grandes banques, des traders et des plus hauts dirigeants. Ils étaient paniqués et dépassés par les événements. Ils ont allumé le feu et ont été incapables de faire quoi que ce soit pour qu'il n'embrasse pas toute l'économie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tous les travailleurs l'ont payé à l'échelle de la planète. Ils l'ont payé en perdant leur emploi pour beaucoup, en perdant parfois leur maison comme aux États-Unis, en perdant la moitié de leur pension de retraite en Grèce. Et nous ici, nous l'avons payé et on continue de le payer encore par plus de chômage et de précarité. À l'inverse, les financiers, la fortune de la bourgeoisie qui était à la base de toutes ces spéculations, ont été sauvés à coups de centaines de milliards par les États qui ont demandé aux banques centrales d'ouvrir les vannes. Et est-ce que les responsables ont été sanctionnés? Non, bien sûr. Le dirigeant, par exemple, de la seule banque lâchée par les pouvoirs, la banque Lehman Brothers, est toujours milliardaire. Et aujourd'hui, ces gens-là sont toujours aux manettes. Et cela dans une situation encore plus fragile, car les centaines de milliards qui ont été injectés depuis la crise de 2008 sont partis évidemment dans la spéculation. On ne peut avoir aucune confiance dans ces gens-là. Le capitalisme est un système injuste et inégalitaire, mais il est aussi complètement fou et irrationnel, et il conduit toute la société de catastrophe en catastrophe. Alors oui, le capitalisme, c'est le passé, l'avenir, c'est de se battre pour le renverser. À ses débuts, la bourgeoisie réalisait ses profits en construisant des usines, des routes, des ponts, des chemins de fer. Son système reposait sur le développement de l'industrie, qui a fait naître un système productif qui a dépassé tout ce que l'humanité avait inventé. Mais aujourd'hui, la bourgeoisie et le capitalisme n'ont plus rien de progressiste. Bien sûr, il y a des progrès scientifiques et des innovations. Le capitalisme a l'art de créer de nouveaux besoins et de façonner de nouvelles habitudes sociales. Le smartphone, par exemple, a pénétré jusque dans les régions les plus reculées d'Afrique ou d'Asie. Des régions qui n'ont toujours pas l'électricité et l'eau courante. Les dirigeants des pays riches parlent de relancer la conquête spatiale. Mais ils disent ne pas avoir assez d'argent pour maintenir les hôpitaux de proximité, pour entretenir les routes, les ponts ou les logements, et éviter des catastrophes comme celle de Gênes ou de Marseille, où des bâtiments vétustes se sont effondrés sur des habitants cette semaine. Les choix fondamentaux pour développer harmonieusement la société nous échappent. Ils sont laissés dans les mains de la classe capitaliste et au hasard de l'initiative privée et du marché. C'est un immense gâchis. Alors que la science avance et permet une maîtrise croissante de la nature, nous sommes incapables de contrôler les conséquences de notre propre activité économique sur la planète et d'enrayer la catastrophe écologique. Les capitalistes sont devenus un obstacle au progrès collectif. Et à l'échelle de la société, le rôle réactionnaire de la bourgeoisie ressort par tous les bouts. La crise du système capitaliste, les rivalités entre les bourgeoisies nationales, nous ont déjà amenés à deux guerres mondiales. Aujourd'hui, des millions de femmes et d'hommes, chassés de leur pays par la guerre, l'oppression ou la misère, s'entassent dans des camps infâmes, ou sont condamnés à errer de pays en pays quand ils ne meurent pas dans les traversées de la Méditerranée. Il y a partout des foyers de guerre qui menacent de se transformer en une guerre plus générale, parce qu'ils sont aussi le théâtre de rivalités entre les grandes puissances. Et puis, on assiste partout à la montée de l'extrême droite et à l'emprise croissante des idées réactionnaires. Partout, la crise économique, les plans d'austérité, le chômage, le désespoir face à l'avenir nourrissent des courants nationalistes, xénophobes et anti-européens. En Hongrie, en Autriche, en Italie, au Brésil, des partis d'extrême droite sont au pouvoir. En Suède et en Allemagne, les dernières élections ont marqué un renforcement de l'extrême droite. Alors oui, la situation est grave. Mais on ne se protégera pas des dangers de l'extrême droite en faisant de la morale aux travailleurs qui prêtent l'oreille aux idées nationalistes. On ne pourra combattre le poison de ces idées dans la classe ouvrière qu'en leur opposant la nécessité de riposter à la lutte de classe que le patronat mène tous les jours. Militer pour montrer aux travailleurs que les politiciens de la bourgeoisie cachent les responsabilités du patronat derrière des boucs émissaires. Militer pour défendre parmi les travailleurs une politique de classe contre la bourgeoisie et son ordre pourrissant sont les seules perspectives. Les Le Pen, les Salvini, les Trump et compagnie disent défendre les intérêts des plus pauvres en empêchant les migrants de mettre le pied dans leur pays. Mais ils sont aussi anti-ouvriers qu'ils sont anti-migrants. En Autriche, par exemple, le gouvernement d'extrême droite a allongé le temps de travail légal pour porter la journée à 12 heures. En Italie, Salvini, ce ministre de l'Intérieur qui a fermé les ports italiens aux bateaux de secours aux migrants, a aussi expliqué, je le cite, « C'est bien de lutter contre la précarité, mais il ne faut surtout pas que cela nuise aux entreprises. Comme les autres, il est à plat ventre devant les patrons et les aidera à faire pleuvoir les coûts sur les travailleurs. » À toutes les époques, les patrons ont cherché à dresser les travailleurs dits nationaux contre les étrangers. En face, le mouvement ouvrier, lui, a opposé le mot d'ordre « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Les premiers militants socialistes, puis communistes, ont opposé l'internationalisme au patriotisme, le drapeau rouge au drapeau tricolore. Eh bien, nous devons retrouver ces valeurs du mouvement ouvrier. Nous devons nous démarquer du chauvinisme et du nationalisme que tous reprennent à leur compte, y compris les partis dits de gauche. Ceux qui montrent du doigt l'étranger, l'Europe ou l'Allemagne, exonèrent les patrons bien français de leurs responsabilités dans la crise et le chômage. Les responsables de la crise et du chômage et de cette société de plus en plus barbare, c'est la classe capitaliste. C'est elle qu'il faut combattre et renverser. Il en va des intérêts des exploités, mais il en va aussi de l'avenir de l'humanité tout entière. La crise, les inégalités, l'exploitation ou la montée des idées réactionnaires ne sont pas le résultat de mauvais choix économiques que l'on pourrait changer du haut des institutions. Elles sont la résultante d'un ordre social. Le fond du problème, ce n'est pas tel ou tel homme ou étiquette politique. Tant que la bourgeoisie règne du haut de sa propriété privée, c'est elle qui détient le pouvoir et impose ses intérêts. Tous les politiciens qui prétendent, à la tête de l'État, dans le cadre de la société capitaliste, pouvoir imposer une politique qui redistribuerait mieux les richesses, prendrait mieux soin de la planète et régulerait le capitalisme pour éviter les crises, ce que fait Mélenchon, sont des menteurs. Il n'y a pas d'autre issue que de renverser le capitalisme et le pouvoir de la bourgeoisie et de réorganiser toute l'économie sur des bases collectives et planifiées démocratiquement pour sauver l'humanité de la barbarie. Et ce sont les travailleurs qui peuvent mener le combat contre la bourgeoisie et représenter l'avenir à condition d'en être conscients. Oui, les travailleurs sont en première ligne dans la lutte des classes. Il suffit de franchir la porte d'une entreprise pour comprendre qu'il faut se défendre au quotidien. Que ce soit pour résister aux cadences, se faire payer des heures de travail ou tout simplement pour se faire respecter. Cette résistance, elle s'exerce de plein de façons. On peut traîner les pieds, pétitionner, se rassembler pour aller voir collectivement la direction, débrayer jusqu'à se mettre en grève. Et c'est là, au cours de cette action collective, que les travailleurs découvrent leur puissance sociale et leur capacité à changer le rapport de force avec le patronat. Mais la conscience politique d'avoir à renverser la bourgeoisie et à prendre le pouvoir est une autre affaire. Cette conscience-là, elle nécessite une politisation et elle dépend de l'exercice d'un parti, de l'existence d'un parti. Elle dépend de l'existence de militants convaincus que la lutte des travailleurs pour leurs conditions d'existence, pour leur salaire ou pour leur emploi, et le combat pour l'émancipation totale ne font qu'un seul et même combat. Pour que le combat des travailleurs pour leur intérêt matériel aboutisse, il doit se mener avec une conscience communiste révolutionnaire, qu'il faut exproprier la bourgeoisie et la remplacer au pouvoir. Militer pour les intérêts des travailleurs, c'est militer pour la révolution sociale. Cette conscience est loin de l'état d'esprit actuel des travailleurs, mais la seule perspective qui s'ouvre à nous, c'est de faire confiance à la classe ouvrière et de l'aider à accéder à cette conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle et qu'elle en est capable. Oui, les travailleurs sont capables de prendre le pouvoir et de l'exercer mille fois mieux que la bourgeoisie. Les grands médias et les politiciens nous expliquent que sans cette bourgeoisie, rien ne se ferait car c'est elle qui entreprend et sait diriger. Mais prenez ce qui se passe à l'échelle d'une grande entreprise. Eh bien, dans l'écrasante majorité des cas, la bourgeoisie ne dirige pas. Elle encaisse. Elle a pris des parts dans l'entreprise, elle est actionnaire, mais elle ne met jamais les pieds dedans. Dans les entreprises, ce sont les travailleurs qui connaissent le travail, résolvent les problèmes techniques et font tourner la boutique. Le rôle des grands actionnaires, c'est juste de prendre les bénéfices et d'en demander toujours plus. La classe ouvrière fait tourner toute la société et elle le fait aujourd'hui pour le compte de la bourgeoisie. Eh bien, elle est capable demain de la faire tourner pour son propre compte. Oui, les travailleurs et les classes populaires sont tout à fait capables de diriger la société. Prenez les salariés des EHPAD qui se dévouent aux côtés des anciens pour un salaire de misère. Prenez les ouvriers qui esquintent leur santé sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. Prenez les ouvriers des chaînes de montage. Prenez les bataillons du nettoyage, du gardiennage et de la grande distribution. Eh bien, nul doute que s'ils accédaient au pouvoir, ils auraient, eux, pour priorité de satisfaire les besoins essentiels des plus pauvres. Et tous les problèmes qui apparaissent aujourd'hui comme insolubles, loger tout le monde, soigner, donner du travail et de l'éducation à tous, accueillir les migrants, trouveraient leur solution. Alors, camarades, vive les travailleurs, vive leur lutte dans la perspective de la révolution sociale.